Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Togo, début ce lundi du dialogue entre pouvoir et opposition pour tenter de trouver une sortie à 6 mois de crise politique. Le régime du président Fornia Singbe fait face à une très forte contestation populaire qui a plongé le pays dans l'instabilité. Eric Manirakiza.
Le rétablissement de la constitution de 1992 qui prévoyait 2 mandats présidentiels, la transition politique au Togo et les réformes électorales constituent les points essentiels de ces assises. La coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir unir sont représentés par 7 délégués. La participation du gouvernement devrait être discutée durant le dialogue. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'un des facilitateurs de cette crise, va accompagner l'ouverture des discussions. L'ONU, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis à Lomé ont salué la tenue de ce dialogue. Les acteurs politiques togolais sont encouragés à travailler de bonne foi pour aboutir à un consensus. Ces dernières semaines, l'entourage de Fornia Singbe a répété dans la presse locale qu'il ne serait pas question de discuter du départ immédiat du chef de l'État ni d'un engagement de sa part à quitter le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les Togolais sceptiques et critiquent la tenue d'un énième dialogue. Depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90, une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à Lomé sans jamais déboucher ni sur une alternance politique ni sur un changement majeur.
Au Nigeria, la justice nigériane a libéré 475 nouveaux membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram. À l'issue de ces procès de masse dans la localité de Kainji, la majorité des personnes inculpées n'a pas été condamnée, faute de preuves suffisantes. Mohamedou Oumfa.
D'après le ministère de la Justice, des centaines de membres présumés de Boko Haram ont comparu la semaine dernière devant un tribunal installé dans une base militaire à Kainji, dans le centre du pays. Les personnes libérées seront prises en charge dans leurs états d'origine pour une réhabilitation appropriée. Le tribunal a aussi ordonné à ces états de leur fournir une réhabilitation dans un centre approprié avant qu'ils ne retrouvent leur famille. Les personnes atteintes de troubles mentaux ou avec des problèmes de santé doivent également recevoir des soins médicaux appropriés. La majorité des procès les premiers du genre au Nigeria se sont déroulés à huis clos, entraînant les critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours.
Nigeria toujours, plus de 11 millions de Nigériens, pour la plupart des diplômés, sont au chômage ou à la recherche d'un emploi. Résultat, beaucoup d'entre eux ont décidé d'entreprendre des initiatives dans plusieurs domaines pour surmonter les difficultés de la vie. Notre correspondant Gilbert Tamba est allé à la rencontre de l'un d'entre eux.
Yunana Ilasha, 42 ans, a installé son atelier de recyclage à Karu, à 20 km de la capitale fédérale du Nigeria.
Je produis des machines agricoles de transformation, comme celle-là est une machine pour le traitement de l'huile de palme. Et comme vous le voyez, c'est un concasseur, mais qui est toujours en construction. Nous avons plusieurs autres comme ça.
Pour lui permettre de faire ses fabrications de machines, Yunana et son équipe font le tour des compagnies pour ramasser les matériels abandonnés ou qui n'ont plus d'usage pour ces compagnies.
Les compagnies qui ont utilisé des matériels et qui les abandonnent, elles n'en ont plus besoin de ces matériels. Nous nous les ramassons et nous essayons de les transformer à autre chose que les gens vont utiliser. Et c'est à partir de cela que nous gagnons aussi de l'argent.
Il s'est inspiré, dit-il, de l'exemple de certains jeunes qui se battent pour eux-mêmes et qui n'attendent pas les offres d'emploi du gouvernement. Plus d'une dizaine de jeunes se trouvent dans son atelier pour apprendre à se débrouiller comme lui. Emos Ganoua, 39 ans, faisait la mécanique avant de rejoindre Yunana qu'il considérait très modèle.
Je travaillais avant avec Dantata comme un mécanicien de bulldozer. Mais lorsque j'ai perdu mon travail, je n'avais plus rien à faire. J'ai continué à chercher du travail sans succès et c'est à partir de ce moment que je suis venu voir Yunana. Comme il est mon promotionnel à l'école, nous faisons la même spécialité et réellement, dès que je suis venu ici pour travailler avec lui, j'ai commencé à comprendre l'importance de ce travail.
David Istifanos, lui, a 26 ans et il est avec Yunana depuis 2009. À ce jour, il est capable de fabriquer certaines machines lui-même.
Comme les machines de traitement de la farine, des arachides, ainsi que la machine à granules pour des animaux.
Un succès qui a permis à Yunana de se prendre en charge pour poursuivre ses études universitaires. Et comme lui, de nombreux Nigériens prennent des initiatives similaires pour développer des idées novatrices pour changer leur sort. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On reste en Afrique de l'Ouest. Le réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouédraogo est décédé hier à Ouagadougou, à l'âge de 64 ans. Auteur d'une quarantaine de films, il a été une figure emblématique du cinéma africain des années 1980 à l'an 2000 et a obtenu des prix dans les plus grands festivals. À preuve, Idrissa Ouédraogo s'est vu attribuer le premier étalon de Yenenga du FESPACO. Les commentaires d'Étienne Minongo, président du Festival des Récréatrales au Burkina Faso.
Idrissa Ouédraogo a toujours considéré que le cinéma devait aider l'Afrique à avancer, devait raconter la mémoire et le récit des populations, que le cinéma devait accompagner tout effort de développement et que, en même temps aussi, c'est par le cinéma que l'Afrique pouvait aussi aller au rendez-vous avec les autres civilisations du monde. Il avait un souci majeur. Il n'aimait pas la manière dont l'Occident représentait l'Afrique. Il avait envie que ce soit les Africains eux-mêmes qui présentent au monde entier le propre visage de leur continent. Et donc, tout son travail, il était attentif à cela. La présence de l'Afrique dans le monde, sa présence authentique, mais en même temps aussi, un cinéma militant parce qu'il pensait que le cinéma pouvait participer à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'expression de leur liberté, leur créativité, et surtout pouvait les mobiliser aussi sur les chantiers de développement et sur les chantiers de bien-être. Il était absolument convaincu là-dessus.
Étienne Minongo, artiste et président du Festival des Récréatrales au Burkina Faso. Au Zimbabwe, le leader de l'opposition Morgan Tsvangirai sera enterré demain dans son village natal de Buera, à 250 km au sud de la capitale Harare. Il est mort mercredi à l'âge de 65 ans du cancer du côlon. Jean-Roger Bion.
La dépouille de Morgan Tsvangirai est arrivée samedi à l'aéroport d'Harare en provenance d'Afrique du Sud, où il est décédé après son hospitalisation. Ses partisans et des responsables de son parti, le Mouvement pour le Changement Démocratique, le MDC, ont entonné des cantiques et des chants de leur parti à l'arrivée de son avion. Le corps a été transporté dans un camp militaire où les héros nationaux sont accueillis avant leur enterrement. M. Tsvangirai avait rencontré en janvier à sa résidence son ancien adjoint Welshman Nkoubé et avait laissé entendre qu'il n'allait pas vivre assez longtemps pour assister aux élections annoncées en juillet. En 2008, Morgan Tsvangirai avait réussi à s'inviter aux portes du pouvoir en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle. Devant le déchaînement de violence ordonné par le pouvoir contre ses partisans, il avait préféré renoncer à se présenter au second tour, permettant à Robert Mugabe d'être réélu. Ancien syndicaliste, Tsvangirai a dirigé le MDC depuis sa création en 1999 et représentait le plus grand défi pour la ZANU-PF.
En Égypte, trois membres des forces armées égyptiennes ont été tués durant la vaste opération anti-djihadiste en cours dans le centre et le nord du Sinaï depuis une dizaine de jours. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le porte-parole de l'armée. C'est la première fois que des pertes du côté des forces de sécurité sont révélées depuis le début de cette campagne le 9 février pour nettoyer la péninsule du Sinaï ainsi que le delta du Nil et le désert occidental frontalier de la Libye. Et pour terminer, actualité ici aux États-Unis, les survivants de la récente tuerie dans une école de Floride comptent manifester fin mars à Washington. Les intéressés veulent réclamer un contrôle plus strict des armes à feu. Fatouma Alimassi.
Baptisée « Marche pour nos vies », la manifestation de Washington devrait inspirer d'autres rassemblements à travers le pays. D'après l'un des organisateurs, l'objectif est de créer une nouvelle normalité où ce serait considéré comme une honte pour les hommes politiques d'accepter l'argent de la NRA. De nombreuses voix se sont élevées depuis le massacre pour dénoncer la mainmise sur le monde politique du puissant lobby pro-armes National Rifle Association, NRA, qui défend la vente libre des armes personnelles. Le lobby s'oppose en effet à toute limitation au nom du deuxième amendement de la Constitution qui garantit le droit de posséder et de porter une arme. La fusillade de Floride a donc ravivé ce débat récurrent aux États-Unis. Emma Gonzalez, une étudiante, a dénoncé les liens entre le président Donald Trump et la NRA. Elle estime que tous les étudiants américains devraient s'impliquer dans ces débats, car tous courent le même danger.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.